6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est le vice-président de l'Association nationale des DRH, les directeurs de ressources humaines.
Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, alors qu'entre en vigueur de nouvelles règles sanitaires pour contrer la cinquième vague, notamment concernant la durée d'isolement, ramenée de 7 à voire 5 jours pour les personnes infectées au parcours vaccinal complet. Quant au cas contact, ceux qui sont vaccinés peuvent dès aujourd'hui continuer leur activité comme aller au travail à condition de faire des tests réguliers. Ce sont des mesures qui, j'imagine, vous soulagent ?
Ah bah c'est sûr, ça va être un petit peu plus simple, parce que ce qui nous inquiétait, c'était plus des cas contacts. Les cas contacts, d'abord, ils sont a priori pas malades, enfin on le souhaite pour eux. Et puis, ça pouvait faire très vite beaucoup de monde, notamment lorsque vous avez un service avec une personne contaminée au milieu, vous aviez tout le service qui était cas contact.
C'était une demande de votre part, cette mesure concernant les cas contacts ?
C'est difficile de dire que c'est une demande parce que c'est une affaire sanitaire. Nous, on attendait les décisions. On avait alerté sur le fait qu'effectivement, ce qui était prévu pour les cas contacts pouvait générer, avec des taux de contamination à 200 000 personnes par jour, près de 2 millions de personnes absentes. Donc on avait indiqué que dans l'hypothèse où sur un plan sanitaire c'était possible, ce serait bien de réviser le schéma de protection des cas contacts.
Alors à cela, il faut rajouter les 200 000 contaminations chaque jour, c'est ce qu'on a en ce moment, c'est l'équivalent de la population de Lille pour donner un exemple. C'est un vrai risque de désorganisation, de paralysie dans les entreprises ?
Alors de paralysie, j'irai pas jusque là, quoique, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est un vrai de désorganisation parce que ce sont des absences imprévisibles par nature et qui peuvent malheureusement pour certaines durer très longtemps. Par conséquent, ça peut créer des problèmes d'organisation et puis ça crée une ambiance un peu d'inquiétude quand même. Même si on a appris un peu à vivre avec le virus, les gens restent assez inquiets. Quand vous avez 200 000 contaminations, ça peut dire que les familles peuvent l'être, les parents peuvent l'être. Donc c'est tout ça, ça crée des conditions un petit peu compliquées.
Mais comment faire fonctionner la boutique face à tant d'absences ? Comment faire les plannings quand dans un service de 10 personnes, vous en avez 4 qui sont contaminés ou qui doivent rester à la maison parce que l'enfant est malade ?
Ah ça c'est sûr que c'est la partie la plus compliquée de l'histoire, puisque alors vous vivez pas forcément en modèle dégradé, c'est-à-dire en disant je vais moins produire ou je vais moins ceci, mais vous essayez d'abord, quand vous le pouvez, de mettre un peu plus de monde que prévu sur les plannings pour pouvoir ne pas être surpris. D'autre part, quelquefois, vous réduisez un peu votre production de manière à pouvoir faire face à un modèle d'absence important. Mais c'est certain que la grande difficulté, c'est tout à l'heure, le problème de cette... De ces situations-là, c'est pas prévisible et on sait pas combien de temps ça dure. Donc ça fait effectivement deux raisons d'avoir des plannings qui sont modifiés quasiment tous les jours quand vous avez taux de contamination pareil.
Alors, autre mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, le télétravail obligatoire, 3 à 4 jours par semaine quand c'est possible, pour reprendre les mots de Jean Castex. Vous êtes prêt ?
Alors, vous allez avoir deux types d'entreprises. Vous avez celle comme la celle dans laquelle je suis qui pratique du télétravail deux jours par semaine depuis déjà plusieurs mois, et par conséquent, ça fait rajouter une journée, donc c'est pas non plus totalement impossible, parce qu'on est déjà en mode hybride, et puis celles qui n'en font pas du tout, et elles, c'est effectivement plus compliqué, parce qu'elles ont fait le choix de pas en faire, pour des raisons qui les regardent, et par conséquent, ça désorganise pas mal. Mais le télétravail, notre sujet, c'est à la fois mettre les gens trois ou quatre jours, comme l'a demandé le gouvernement, mais c'est aussi faire attention à qui on met en télétravail, en fait.
Oui, parce que c'est vous qui définissez les postes. C'est encore assez souple, relativement.
Oui, parce qu'un même poste peut être en télétravail dans une entreprise et pas possible dans l'autre. Mais surtout, on regarde aussi les gens. Parce que vous savez que le télétravail, vous avez des tas de gens qui n'aiment pas, qui vivent dans des conditions difficiles, qui ont des problèmes d'isolement, etc. Donc on doit aussi faire attention à ça. Il y a certes le poste, sa qualité de télétravaillable ou pas télétravaillable, mais il y a aussi les personnes concernées. Vous avez certaines personnes qui vous disent « moi je peux pas repartir 3 jours ou 4 jours, c'est pas possible ». Et ça, nous, on doit faire attention parce qu'on est responsable de la santé de nos collaborateurs quand même.
Pourquoi est-ce que le gouvernement a-t-il rendu ce télétravail obligatoire ? Ce qu'il n'avait pas fait, je le précise, lors des vagues précédentes. Ça sous-entend que certaines entreprises ne jouent pas le jeu, c'est le cas ?
Effectivement, on a été un petit peu surpris, pour être honnête, par ce choix de le rendre obligatoire, puisque au mois de juillet dernier, il avait indiqué qu'il redonnait la main aux entreprises pour leur organisation, et puis je pense que les entreprises ont plutôt fait le boulot en termes de lutte contre la pandémie. Maintenant, il a fait le choix de le rendre obligatoire, sans doute parce que certaines n'en font pas assez, et surtout, c'était une manière de désengorger les transports. Bon, on aurait préféré qu'ils s'abstiennent et qu'ils continuent à demander aux entreprises de d'aller, par exemple, d'aller trouver des accords de télétravail.
Mais vous l'avez pris comme un manque de confiance, sachant que ça fait deux ans quand même que vous appliquez, pour la plupart, scrupuleusement, voilà, toutes les règles.
Oui, d'une certaine manière, oui, pour être tout à fait honnête. Alors que nous, on avait dit, mais laissez-nous faire. Depuis deux ans, le nombre de clusters dans les entreprises n'a pas explosé. On est très responsable et sérieux dans la mise en place des gestes barrières, etc. Faites-nous confiance, on sait le faire. Et ne traitez pas de la même manière une tour de la Défense et une entreprise dans une zone artisanale d'une petite ville. Ça n'a rien à voir. Donc c'est curieux de l'ordre obligatoire. Bon, et je précise, le gouvernement a fait un choix différent.
Ouais, et je précise qu'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par salarié pourra être infligée en cas de non-respect de cette obligation de télétravailler. Benoît Serre, le pass sanitaire en entreprise est définitivement abandonné. C'est Olivier Véran qui l'a confirmé hier dans le JDD. Le ministre de la Santé, dit-il, prend acte de l'opposition des syndicats et du patronat. Vous êtes rassuré ?
Ah, nous, on est contents parce qu'on était, on avait l'occasion de s'exprimer assez fréquemment sur ce sujet-là, en indiquant que c'est vraiment pas une bonne idée, que à la limite, on pouvait comprendre qu'on nous demande un pass sanitaire pour aller dans les restaurants d'entreprise, par exemple, qui sont des lieux de contamination fort, ou potentielle contamination fort, mais que le pass sanitaire dans toute entreprise, ça avait pas beaucoup de sens, et d'ailleurs, dans les hôpitaux, ça avait posé quand même un paquet de problèmes. Donc voilà, donc on est assez content, et on est content que Olivier Véran confirme ça hier, puisqu'on était un peu inquiet à l'idée que il y a une
ça
sorte de coup parlementaire.
Oui.
Voilà, exactement. Donc, semble-t-il, ce ne sera pas le cas. On verra bien, mais ça ne devrait pas être le cas.
Dernière question, Benoît Serre. Est-ce que, entre l'inflation, hein, les chiffres du mois de décembre seront révélés demain, les prix qui augmentent donc, et la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, est-ce que 2022 va être l'année des hausses de salaire ?
Ah, il est certain que 2022 va être une année un peu particulière avec une pression sur les salaires très forte pour les trois raisons que vous venez d'indiquer. Et j'y ajouterai une quatrième, qui est une forme d'attente légitime de reconnaissance des collaborateurs d'avoir subi pendant un an tout ce qu'ils ont subi à cause de cette pandémie. Bon, c'est vrai que les discussions vont être ardues, quelquefois, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'augmenter les salaires, elles peuvent se permettre d'augmenter d'autres formes de choses, oui, mais pas forcément les salaires. Donc c'est vrai que oui, c'est un sujet d'actualité de manière claire.
Eh bien, on suivra ça tout au long de cette année 2022. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Très bonne année à vous.
Merci. Au revoir.
6h19,
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierre.